Le commerce équitable représente 0,03% du commerce mondial. Avec un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros, dont 3 500 millions d'euros en France, 1,5 million de petits producteurs en vivent, 8 millions de personnes, familles comprises, réparties dans 70 pays. Voilà pour les chiffres. Entretien avec Marc Dufumier, agronome, professeur émérite en agriculture comparée à l'AgroParisTech et expert auprès de la FAO et de la Banque mondiale, au micro de Pascal Marcaggi.
Marc Dufumier, quand on parle en fait de commerce équitable, aujourd'hui la règle de base quand même, c'est une distorsion hors de proportion entre un agriculteur du Sud et un agriculteur du Nord.
Oui, donc les organismes du commerce équitable veillent précisément à essayer un jour de mettre fin à des distorsions de concurrence sur le marché mondial. On oublie trop fréquemment, notamment en ce qui concerne les productions alimentaires, les productions vivrières, les écarts considérables de productivité entre ceux qui travaillent souvent avec que des outils manuels dans les pays du Sud et ceux qui, les grands exploitants agricoles chez nous, bénéficient du tracteur, de la moissonneuse-batteuse et de tous les équipements, disons, motorisés. Pour prendre un rapide exemple, quand au sud Sénégal, en Casamance, une femme repique le riz à la main, c'est jamais plus d'un demi-hectare et sans engrais chimique ni organique aucun, c'est jamais plus d'une tonne hectare. Cela nous fait du 500 kg seulement de production par actif ou par active et par an. Sachez qu'en Camargue, c'est facilement 100 hectares avec le tracteur et la moissonneuse-batteuse, c'est facilement 5 tonnes hectares avec les engrais et les produits phytosanitaires, c'est facilement 500 tonnes par actif et par an, c'est-à-dire 1000 fois plus que les 500 kilos du sud du Sénégal. Alors il est vrai que notre agriculture productiviste, elle est aussi un peu destructiviste, on va dire elle détruit, mais même si on retire toutes les valeurs perdues, vous savez, la consommation de carburant, la consommation d'engrais, la consommation de produits phytosanitaires, l'usure du tracteur, l'usure de la moissonneuse-batteuse, même si on retire tout ça, ça fait à peu près les 4/5. Il reste quand même en valeur ajoutée, c'est-à-dire la vraie productivité de l'actif agricole en Camargue, eh bien, il reste encore 100 tonnes, le cinquième des 500. Et 100 tonnes, c'est encore 200 fois plus que les 500 kilos de la personne qui travaille à la main dans le sud Sénégal. Et le drame, il est là, c'est que le paysan, la paysanne de Casamance, quand elle a besoin d'acheter des médicaments, des produits de première nécessité, elle va essayer de vendre un peu de son riz. Et si vous regardez sur le marché de Ziguinchor, la capitale de la basse Casamance, vous trouverez, pas beaucoup, mais vous en trouverez du riz de Casamance, mais vous trouverez juste à côté du riz du Vietnam, de la Thaïlande, du riz de Camargue, du riz de Caroline du Sud, l'oncle Ben. Et tous ces sacs de riz à quantité égale, 50 kilos, à qualité à peu près égale, se vendent à peu près au même prix. Et ce que l'on oublie, c'est que dans le sac de Casamance, il y a 200 fois plus de travail agricole que dans le sac en provenance de Camargue ou de Caroline du Sud. Et donc ça veut dire que la personne qui, pour acheter ses médicaments, va devoir vendre un peu de riz au sud Sénégal, eh bien va devoir le vendre au même prix que le sac voisin, ce qui veut dire accepter une rémunération 200 fois inférieure à celle de son concurrent français ou nord-américain. Alors s'il y a des agriculteurs en difficulté en France, comment voulez-vous que quelqu'un qui va accepter une rémunération 200 fois inférieure puisse acheter ses médicaments, nourrir sa famille, épargner, investir, progresser, avoir accès à la charrette, à traction animale, produire du fumier, fertiliser la rivière? C'est totalement impossible. Et donc c'est bien contre ces distorsions de concurrence que le commerce équitable doit s'insurger et faire des propositions.
Alors il y a une préconisation que vous avez, au risque de choquer. On sait très bien qu'il y a beaucoup de migrations, et pas seulement du sud vers le nord, de populations qui ne subviennent pas du tout à leurs besoins. Et vous préconisez l'instauration, à l'instar d'ailleurs de l'Europe au lendemain de la guerre, de droits de douane.
Alors absolument, si on veut que les agriculteurs des pays du sud qui travaillent à la main ne soient pas condamnés finalement à la pauvreté et à la faim d'un côté, ou alors à migrer vers les bidonvilles, migrer vers les dernières forêts, ou même tenter l'aventure de la traversée du désert libyen et de la Méditerranée. Si on veut que les paysanneries puissent vivre et travailler dignement au pays et nourrir par elles-mêmes leur peuple, et que leur peuple ne soit pas dépendant de nos exportations de poudre de lait, de céréales, de sucre ou de nos excédents de viande bas de gamme, ben il est impératif que les gouvernements des pays du Sud aient le droit de protéger leur agriculture vivrière, leur agriculture alimentaire, par des droits de douane conséquents, comme l'Europe l'a fait au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, avec efficacité. C'est-à-dire que les droits de douane contribuent à, évidemment, accroître les prix des produits alimentaires sur le marché intérieur des pays du Sud, mais ça permet précisément aux paysanneries de vendre plus cher leurs produits agricoles et de pouvoir enfin épargner, investir, progresser, accroître leur rendement et nourrir leur peuple. Et le droit de douane, ne l'oublions pas, c'est une rentrée fiscale pour l'État qui permet précisément à l'État de créer des chantiers à haute intensité de main-d'œuvre, de créer des emplois dans les bidonvilles pour que les gens qui sont aujourd'hui sans emploi et sans revenus puissent enfin avoir accès à un revenu et acheter plus cher leur nourriture. C'est-à-dire que c'est vraiment gagnant-gagnant pour les ruraux et les urbains des pays du Sud. Et je ne vois pas pourquoi nous interdirions aux pays du Sud de faire ce que nous avons fait, nous, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, avec succès. Alors ça décoiffe parce que les apôtres du libre-échange nous disent « Ben non, la petite paysanne qui repique à la main devrait renoncer à faire du riz et au Sénégal de se spécialiser selon les avantages comparatifs, de renoncer à faire au Sénégal ce qu'on produit avec une plus grande productivité aux États-Unis ou en France et de ne faire au Sénégal que les produits tropicaux que l'on ne produit pas aux États-Unis et en France. » Sauf que ça ne marche pas. D'abord parce qu'au Sénégal, il reste plus grand-chose. Le coton aussi récolté à la main, le coton des États-Unis récolté au cotton picker, écart de productivité de 1 à 200, le mil et le sorgho, pareil, même l'arachide, quand vous allez sur un supermarché, que vous regardez sur les rayons le litre d'huile d'arachide, le litre d'huile de tournesol et le litre de colza, qui se vendent à peu près au même prix en France, ben sachez-le, il y a 200 fois plus de travail agricole dans le litre d'huile d'arachide que dans le litre d'huile de tournesol ou de colza. C'est-à-dire que la productrice qui désherbe son arachide à la main au Sénégal est rémunérée 200 fois moins qu'un agriculteur français. Et vous imaginez bien, là non plus, il n'y a pas de succès. Le Sénégal, si on lui dit de se fier que au libre-échange, va devoir continuer d'exporter sa main-d'œuvre sur les marchés clandestins. Ce n'est pas une solution. Donc pour la défense du droit des peuples à vivre et travailler dignement au pays, il est impératif que l'on autorise ces pays à se protéger. Et même quand certains font du café et du cacao que nous ne produisons pas en France et ailleurs, ben sachez que la Côte d'Ivoire a fait ça. Les agriculteurs concurrencés par nos vivres ont commencé à produire du caféier, du cacao. Le Ghana à côté aussi, le Congo pas plus loin, l'Angola pareil. Et puis en Asie, c'est la Malaisie, l'Indonésie, désormais le Vietnam. Et puis en Amérique latine, c'est le Costa Rica, le Nicaragua, le Salvador, le Venezuela, la Colombie et le Brésil. Tous les agriculteurs concurrencés par nos excédents vivriers ont commencé à se spécialiser vers quelques cultures de rente pour l'exportation, au point d'aboutir à une surproduction telle que les prix sont descendus et rémunèrent aujourd'hui moins que le vivrier, c'est-à-dire moins que 200 fois moins nos agriculteurs. Et le drame, c'est que quand ils découvrent que ça rémunère moins que leur culture vivrière, moins que 200 fois moins nos fermiers, ben ils ont investi dans des caféiers, dans des cacaoyers, c'était pour 30 ans, ils ne vont pas les arracher du jour au lendemain pour réduire l'offre et faire augmenter les prix. Donc cette spécialisation selon les avantages comparatifs, c'est beau sur la théorie, mais en fait c'est une très mauvaise farce pour les paysans pauvres du tiers-monde.
En un mot, le commerce équitable qui pour nous parfois est synonyme de café, de chocolat, une forme de bonne conscience entre guillemets à bon compte, en réalité ça peut avoir un effet parfaitement pervers.
Alors rendons d'abord hommage aux organismes du commerce équitable, Max Havelaar, Artisans du Monde et les autres, d'avoir démontré très concrètement que quand les agriculteurs là-bas bénéficient d'un prix supérieur au marché ordinaire, grâce au fait que des militants chez nous achètent leur tablette de chocolat et leur café légèrement plus cher, au moins le grand mérite de ces organismes, c'est d'avoir démontré qu'à l'abri de prix plus rémunérateurs là-bas, eh bien, il y a beaucoup de choses qui changent pour les producteurs bénéficiaires. Et même, il y a des effets induits, on dit en économie, à l'échelle du village et de la région. Ça change un peu l'économie locale. Donc ça, rendons-leur hommage. Mais c'est vrai que ce n'est pas en élargissant et en consommant davantage de chocolat ou de café que nous allons changer l'ordre des choses à l'échelle internationale. Et que précisément, non, c'est précisément la protection des cultures vivrières et le fait d'être déjà mieux rémunéré par les cultures vivrières qui feront qu'un jour, le prix du café et du cacao deviendra plus cher parce qu'un nombre croissant d'agriculteurs va désormais produire pour nourrir leur peuple, renoncer progressivement à surproduire du café ou du cacao et du coup, eh bien, l'offre réduira et le prix du café et du cacao là-bas sera supérieur sans qu'on ait, nous, par des actes militants, à devoir dire il faut l'acheter plus cher.
Marc Dufumier, honnêtement, vous êtes expert à la FAO, 9 milliards d'êtres humains, est-ce que ça n'est pas beaucoup trop et on n'ose pas le dire ?
Alors, sachez qu'il est parfaitement possible, effectivement, de nourrir 9 milliards de personnes en 2050 sans problème majeur. D'abord parce que ce qu'on oublie, c'est que s'il y a des gens aujourd'hui, près d'un milliard de personnes, qui a faim et n'a pas tous les jours ces 2200 kilocalories, c'est pas parce qu'on ne produit pas assez, mais c'est parce qu'il y a un milliard de personnes qui est beaucoup trop pauvre. Figurez-vous, pour que nourrir correctement quelqu'un dans le monde, il faut produire aujourd'hui de l'ordre de 200 kilos de céréales ou son équivalent sous la forme pommes de terre, manioc, igname, banane, plantain, en termes de ration calorique, y compris pour que les gens aient accès à quelques œufs, un peu de viande, du lait. Mais pour une nourriture correcte, même si c'est modeste, il faut produire de l'ordre de 200 kilos de céréales ou son équivalent par habitant et par an. La production mondiale est de 330. Ça veut dire que il y a déjà des disponibilités alimentaires pour que personne n'ait faim aujourd'hui. Alors pourquoi des gens ont faim ? Ben c'est parce qu'ils n'ont pas le pouvoir d'achat de ces surplus alimentaires. Et où vont ces 130 kilos excédentaires ? Eh bien, ça va vers les marchés solvables. Les marchés solvables, eh bien, c'est peut-être dans les pays du Nord des gens qui gaspillent. C'est-à-dire on ne termine pas dans notre assiette. Les supermarchés bazardent tout ce qui a dépassé la date de péremption et autres. Et puis, c'est pour une autre affaire, ben, c'est les usines d'aliments du bétail. C'est-à-dire qu'il y a des gens au pouvoir d'achat suffisant pour acheter suffisamment de viande. Et ça fait que les usines d'aliments du bétail sont solvables pour acheter une alimentation qui échappe aux populations humaines les plus pauvres. Et de plus en plus, sachez-le, une part de la production alimentaire va pour produire de l'éthanol pour abreuver nos voitures ou de l'agrodiesel pour abreuver nos voitures. Donc c'est la pauvreté contre laquelle il faut se battre. Et c'est précisément la pauvreté de la paysannerie concurrencée par nos surproduits qui est à l'origine de la faim. Et alors, à l'abri de protection aux frontières, de droits de douane, c'est-à-dire avec des prix plus rémunérateurs, avec une capacité d'épargne et d'investissement. Est-ce que les agriculteurs des pays du Sud, malgré les conditions écologiques de là-bas, pourraient produire davantage de nourriture ? La réponse est très clairement oui. Oui, parce qu'on peut promouvoir une agriculture intensive d'une certaine façon, mais entendons-nous bien, qui va faire un usage intensif des rayons du soleil, puisque c'est la plante transforme l'énergie solaire en énergie alimentaire. L'énergie qui nous anime, vous et moi, ça nous vient du soleil, ressource naturelle, renouvelable. Il n'y a pas de limite à cela.
Il y a vraiment tout ce qu'il faut.
Pour fabriquer les hydrates de carbone, le sucre, l'amidon, les calories alimentaires, il faut prendre le carbone dans le gaz carbonique de l'air. Mais il y a pléthore de gaz carbonique dans l'atmosphère. C'est un gaz à effet de serre. Donc allons-y, prenons le carbone sans retenue aucune par la photosynthèse des plantes. Il n'y a pas de crainte de ce point de vue-là. Et pour fabriquer des protéines, il faut y rajouter de l'azote, mais il y a 79% d'azote dans l'air. Avant qu'on arrive à 78%, vous pouvez attendre encore des siècles. Donc, soyez sans crainte, la plupart des ressources nécessaires à notre nourriture sont des ressources naturelles renouvelables ou pléthoriques. Il y a après les éléments minéraux, le calcium, le potassium, le phosphore, pour lesquels, effectivement, il nous faut être très attentifs. Mais sachez qu'on peut en trouver en sous-sol lorsqu'une roche s'altère. Si pour peu que vous ayez des plantes à enracinement profond, c'est-à-dire les racines des arbres dans la haie ou des racines des arbres au milieu des champs, peuvent aller chercher ces éléments minéraux en profondeur, les fixer dans les feuilles, et quand les feuilles mortes tombent à terre, ça fertilise la couche arable en éléments minéraux qu'on a été chercher en sous-sol. Et puis ensuite, sachez qu'à travers des mécanismes un peu plus complexes, des champignons qu'on qualifie d'être mycorhiziens, ils peuvent aider la plante à aller chercher des éléments minéraux qui sont un peu coincés entre les feuilles d'argile, coincés sur des ions aluminiques ou sur du calcaire. En tout cas, il y a des méthodes biologiques qui permettent malgré tout d'avoir plus facilement accès à des éléments minéraux déjà disponibles dans le sol, mais considérés jusqu'à présent comme inassimilables. Bref, une agriculture intensément écologique, j'accepte, intensive en emploi, parce que cette agriculture va effectivement permettre d'assurer le plein emploi dans les campagnes et d'éviter l'exode rural prématuré vers les bidonvilles et les dernières forêts. Oui, cette agriculture intensive, elle est en fait intensément écologique. C'est celle aussi qui utilisera le moins de produits chimiques, d'intrants de synthèse, d'énergie fossile, et ce sera zéro agrotoxique.
C'est un raccourci intellectuel, mais on retient que faire en sorte que nos congénères cessent d'être pauvres, c'est excellent pour la planète parce que ça réduit le CO2 dans l'atmosphère. C'est pas trivial de le dire.
Eh bien, c'est pas du tout trivial de dire que résoudre le problème de la faim et de la malnutrition dans le tiers-monde et faire un usage intensif de ces ressources naturelles, renouvelables ou pléthoriques, ça va aussi dans le sens du plus grand respect de l'environnement et d'une réduction des gaz à effet de serre. Parce qu'effectivement, c'est par des voies, par exemple, de fertilisation biologique que l'on permet permettra de fixer l'azote de l'air, ça nous évitera d'avoir recours à de l'urée, de l'ammonitrate, du sulfate d'ammonium, des engrais azotés de synthèse qui sont très coûteux en énergie fossile par certains côtés et qui, au moment de leur emploi, sont très émetteurs de protoxyde d'azote, un gaz qui est très réchauffant du point de vue du réchauffement climatique. Oui, cette agriculture intensément écologique peut à la fois satisfaire les besoins alimentaires et nutritionnels d'une population sans cesse croissante et réduire les émissions de gaz à effet de serre et favoriser notre environnement.
Marc Dufumier, merci.